Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Et vous avez raison d'écouter Biotine parce que vous vous dites que vous avez envie de vous informer de l'actualité scientifique. Eh bien, vous êtes à la bonne porte, sur la bonne station pour la bonne émission Biotine avec Jean-Noël et avec Carole. Bonjour Carole.
Salut Jean-Noël.
C'est la dernière émission de cette saison 2019-2020. On a commencé cette saison en parlant d'espace. À l'époque, il y a eu aussi cette émission qu'on avait fait en direct de la fête de la science. Il y a eu Anne Fleur qui nous a accompagnés également tout au long de cette année avec son émission, sa chronique InnoCity. On la retrouvera, je l'espère, à partir de la rentrée de septembre. Et pour cette saison un peu particulière avec cette période de confinement qui fait que pendant presque 3 mois, on n'a pas pu assurer l'émission de Biotine, c'était peut-être un peu ridicule de faire un best-of, comme on le dit en bon français, alors que l'émission de fin juin est en général une émission où on essaye de faire un récapitulatif de tout ce que l'on devait retenir de l'actualité de cette année. Et bien du coup, on s'est dit qu'on va faire comme une émission normale et donc on va continuer à feuilleter l'actualité scientifique parce qu'il y a encore quelques actualités, quelques informations qu'on n'a pas eu le temps de divulguer à l'antenne. Donc on aura le temps de faire un récapitulatif de l'année, par exemple fin décembre, pourquoi pas, on verra bien. D'ici là, parce que nous sommes déjà le 27 juin.
C'est passé tellement vite cette année, mais bon.
Cette année particulière est passée encore plus vite, je trouve.
Ça, c'est certain.
C'est étonnant, parce que, oui. Alors que quelque part, pendant un bon bout de temps, on n'a pas fait grand-chose, enfin, en ce qui me concerne.
Je trouve que, en tout cas, c'est bien qu'on ait eu la chance de pouvoir revenir dans le studio pour bien justement sûr. Pouvoir faire ces émissions du mois de juin, dans les conditions donc, respectueuses des gestes barrières. Et puis on verra en septembre, on verra la nouvelle saison.
On verra la nouvelle saison, on devrait redémarrer début septembre. Suivez l'actualité de Graphite, notamment sur le site internet ou alors sur la page Facebook. Mais voilà, on verra un petit peu la programmation, il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas. On est tellement bien en fait dans ce
oui.
studio. Il faudrait juste qu'ils nous changent de la chaise.
Oui, voilà, petite demande.
Petite demande personnelle à Brian, ce serait bien de changer de chaise. Nous sommes le 27 juin et l'éphéméride, comme tous les samedis, nous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'actualité scientifique. Un 27 juin en 1954, l'URSS, déjà quand tu dis URSS et que tu comprends ce que ça veut dire, t'es déjà vieux hein, quelque part. Parce que l'URSS ouais. n'existe plus depuis 94-95, je crois. Hein, je ne sais plus, même avant, qu'est-ce que je raconte, 91. Donc ceux qui connaissent l'URSS, déjà, voilà. Donc à nouvelle génération ne sait pas ce qu'est l'URSS. Eh bien, en 1954, l'URSS, c'était le premier pays à produire de l'électricité nucléaire en ouvrant la centrale nucléaire d'Obninsk, pardon, en 1954. En 67, le premier guichet automatique bancaire est installé au nord de Londres par la banque Barclays, en 67 déjà. Et plus proche de nous, en 2007, des recherches confirment l'identité d'une momie retrouvée en 1903, pardon, comme étant celle oui. de la reine pharaon Hatshepsut.
Oui, très connue. Non, mais c'est vrai. Si,
Hatshepsut,
c'est mon rayon l'Égypte ancienne.
Cette momie, donc retrouvée en 1903, où on a attendu plus d'un siècle pour bien confirmer son identité par des nouvelles recherches. C'était en 2007. Naissance en 1835 de Otto Hermann. Et il naît dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Slovaquie. Son père, médecin et ancien camarade de classe de l'ornithologue Salomon Pateny, eh bien, il va encourager son fils à s'intéresser à l'histoire naturelle. Et donc, le jeune Otto Hermann constitue une collection d'oiseaux. Il va même préparer les pots lui-même, c'est-à-dire tellement il est passionné. En 1864, Otto Hermann devient conservateur du musée d'histoire nationale naturel, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, Muséum d'histoire naturelle de Kolozsvár, c'est en Roumanie. En 1870, on l'invite à Vienne, à un poste au muséum de la ville. Mais la Société hongroise des sciences naturelles va lui offrir une bourse de 5 ans pour essayer de le retenir dans son pays. Il entre au musée national hongrois et en 1903, il entreprend des fouilles archéologiques dans les grottes de Buk. Donc il est à la fois archéologue, scientifique, mais également homme politique hongrois. Il a eu quand même un parcours assez intéressant. Il est mort en 1914 à Budapest des suites de complications après avoir été renversé par une charrette. C'est
C'est idiot. Dommage.
C'est idiot de mourir comme ça, mais bon.
Mais ça arrivait fréquemment, du coup.
Et ça, voilà. Et comme tu m'as accompagné quand même pas mal de temps pendant cette saison, Carole, je devais, dans cet éphéméride, mettre en avant une femme. Alors malheureusement, c'est dans le cas de l'éphéméride d'un décès, lorsqu'elle est décédée
pas de chance,
ouais. un 27 juin 1831. Il s'agit de Sophie Germain, mathématicienne, physicienne et philosophe française. Elle est connue pour le théorème d'arithmétique qui porte son nom. Alors, je pourtant fais des maths, mais je ne connaissais pas le théorème de Germain. Mais elle est connue également pour ses échanges avec un mathématicien qu'on connaît mieux, Gauss, bien sûr, et pour ses travaux aussi sur l'élasticité des corps. Pour pouvoir se consacrer aux mathématiques qui étaient alors réservées aux hommes, elle va donc utiliser un nom d'emprunt pendant au moins une quinzaine d'années et elle se fera appeler Antoine Auguste Leblanc. L'insuffisance de certains travaux de Sophie Germain, on considère que même si elle a fait des choses très importantes, c'était peut-être incomplet. Et en fait, ça s'explique selon certains par justement cette mise à l'écart de la vie scientifique. Et au début du 19e siècle, les femmes étaient jugées incompétentes pour comprendre les travaux scientifiques. Elles ne pouvaient traditionnellement avoir accès à la connaissance des progrès scientifiques qu'au cours de discussions mondaines dans des salons comme ça, ou alors si elles avaient la chance de lire quelques livres scientifiques vulgarisés qui leur étaient particulièrement destinés. Eh bien, Sophie Germain, elle se distingue avant tout par son refus de se soumettre aux mœurs de son époque. J'étais certain que ça allait te plaire.
Que je rigolais, mais c'était pour le juste Leblanc, voilà, pour qu'on comprenne la référence. Mais sinon, oui, ce n'est pas drôle du tout. Et il y avait beaucoup de femmes scientifiques, en fait, dont on ne connaît même pas le nom, qui n'est jamais remonté parce que mise à l'écart, parce que des hommes se sont appropriés leurs travaux. Donc, c'est bien d'en parler.
Être femme autodidacte de surcroît, ça ne facilite pas les choses. Aujourd'hui encore, dans la science que Sophie Germain avait choisie, c'est quand même les mathématiques, donc c'est vrai qu'elle cumulait quand même pas mal. On imagine à peine ce que cela représentait dans les premières décennies du 19e siècle. C'est ce qu'explique Amy Dahan d'Almedico, qui est mathématicienne et historienne des sciences françaises, en parlant donc de Sophie Germain, dont on célèbre le décès aujourd'hui. Mais il est vrai, il faut quand même avouer, que dans cet éphéméride, on va parler de 95% d'hommes et de 5% de femmes. C'était l'occasion aujourd'hui d'en parler pour cette dernière émission de la saison. Carole, de quoi vas-tu nous parler ?
Une fois n'est pas coutume, en ce mois de juin, on va partir dans l'espace. Je trouvais que c'était bien de commencer par un petit voyage comme ça.
Mais oui, mais parce qu'on se rend compte que l'espace revient à l'actualité. On a bien compris que différents pays allaient s'investir, sont déjà investis, et qu'on n'a pas fini. Enfin, on ne se répète pas dans cette actualité tellement il y a des choses nouvelles qu'on apprend tous les jours. Donc
tout
c'est évident
fait.
Qu'on en parle très souvent dans cette émission et tu aimes bien nous envoyer très loin en l'air.
Ah ben on va essayer en tout cas, puisqu'on va parler de la découverte d'un trou noir, et ce serait le plus proche du système solaire. C'est un article donc publié dans le blog Passeurs de Science, hein, animé par Pierre Barthélémy, qui relate toutes ces découvertes. En fait, c'est donc un système qui a été baptisé HR6819, qui se trouve à 1 000 000 d'années-lumière, composé de 2 étoiles et visiblement donc d'un trou noir qui aurait 4,2 fois la masse du Soleil. Alors, l'histoire commence forcément avec un peu une enquête, hein, où voilà, on cherche un petit peu à savoir ce qui est observé. En fait, c'est une étude internationale qui a été publiée début mai dans Astronomy and Astrophysics, où des analyses, des mesures faites par le spectrographe Feros, un instrument installé sur le télescope de 2,2 mètres de diamètre que l'Observatoire européen Austral possède sur le site chilien de la CIA, eh bien, ce spectrographe a montré que quelque chose clochait dans le duo HR6819. Une des 2 étoiles semblait, être en relation avec un troisième objet non identifié. Alors, les systèmes triples existent, hein, en astronomie. Par exemple, la très connue Alpha du Centaure, qui est une étoile simple, enfin qui n'est justement pas une étoile simple, pardon, mais un trio composé donc d'Alpha Centauri A, d'Alpha Centauri B et de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil. Le problème dans le cas de HR6819, c'est qu'on n'y arrivait pas à identifier dans ce système, en fait, le troisième membre. On aurait pu imaginer qu'il s'agissait d'une étoile à neutrons, mais en étudiant l'orbite de son partenaire, les chercheurs ont calculé que le mystérieux inconnu avait une masse imposante, comme je le disais, équivalent à 4,2 fois celle de notre Soleil. Donc trop importante pour être celle d'une étoile à neutrons. Comme l'explique Thomas Rivinus, astronome à l'ESO, donc là où se trouve le spectrographe Féroce, et qui est également donc, le premier auteur de l'article, une autre conclusion s'est imposée. C'est qu'un objet invisible avec une masse d'au moins 4 fois celle du Soleil ne peut être qu'un trou noir, selon les chercheurs. Comme HR6819 se trouve à environ un millier d'années-lumière de nous, cela fait de son troisième membre le trou noir le plus proche du système solaire. Bien sûr, soyons rassurés, même si cette distance ne représente qu'un centième du diamètre de notre galaxie, elle est suffisamment respectable pour qu'on ne craigne pas de rencontrer ce trou noir des 4 matins, justement, pour donner un peu une comparaison, en fait, Proxima Centauri se situe à 4,2 années-lumière de nous. Il ne s'agit évidemment pas d'un trou noir géant, comme celui dont la photographie dévoilée il y a plus d'un an a fait le tour du monde. Ce type de trou noir, dont la masse équivaut à plusieurs millions, voire plusieurs milliards de fois celle du Soleil, sont généralement tapis au centre des galaxies. Dans notre cas, le trou noir du système HR6819 est un trou noir dit stellaire parce qu'il apparaît après la mort d'une étoile massive. Alors, ce qui reste de cette dernière après l'explosion finale, donc la supernova, reste tout de même très important en termes de masse et ce cadavre stellaire s'effondre alors sous son propre poids. Comme aucune force n'est capable de s'opposer à cet écroulement, la masse se concentre de plus en plus et naît alors un trou noir, une singularité de l'espace-temps d'où plus rien, pas même la lumière, ne s'échappe. Étant donné la grande quantité d'étoiles massives qui sont nées et mortes dans la Voie lactée depuis ses débuts, on estime que le nombre de trous noirs stellaires qui peuplent notre galaxie est de l'ordre de plusieurs centaines de millions, voire du milliard. Pourtant, nous n'en connaissons qu'une vingtaine, invisibles par définition, n'émettant pas eux-mêmes une onde électromagnétique. Les trous noirs se laissent très difficilement capturer. Les rares qui soient connus se trahissent en général en arrachant de la matière à ce qui les environne. En tombant dans le trou noir, celle-ci s'échauffe énormément et produit d'énergétiques rayons X qui sont détectables par les télescopes spatiaux. En revanche, les trous noirs qui n'ont pas ce type d'interaction et sont probablement les plus nombreux, ils restent désespérément insaisissables. Les auteurs de l'étude préconisent donc de s'intéresser davantage aux systèmes doubles qui pourraient justement apparaître comme des systèmes triples et peut-être être associés à un trou noir.
On se rend compte que, parlons là aussi dans ce domaine, on a pas mal de choses à apprendre encore. C'est ça qui est intéressant, je trouve.
Plusieurs centaines de millions de trous noirs. Je trouve que c'est vrai que le nombre comme ça. Après, évidemment, l'univers est immense.
Oui, mais on voit très bien que c'est un domaine encore qu'il va falloir investiguer et qu'on est au tout prémisse de ça.
C'est que plus on développe les outils d'observation, et plus on arrive à détecter et à déduire. Ce qui se
cache. Il faut détecter et ensuite comprendre, effectivement. Donc là, on a vraiment pas mal de choses à voir. Carole, ce n'est pas à toi que je vais apprendre que les animaux sont parfois les gardiens d'étonnants super-pouvoirs et qu'on aimerait bien, nous, humains, modestes humains, récupérer ces super-pouvoirs. Par exemple, on va prendre les céphalopodes. C'est les pieuvres, c'est les calamars. Eux, ils ont et ils maîtrisent totalement l'art du camouflage. Une équipe de l'Université de Californie cherche depuis longtemps le moyen de pouvoir imiter leur capacité à changer de couleur. C'est un travail de longue haleine que mènent ces chercheurs et qui ont pu présenter leurs travaux aujourd'hui. Des travaux qui permettent à des cellules humaines capables de devenir transparentes. Attention, faut prendre avec beaucoup de pincettes le terme de transparent, mais je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait. Ils se sont inspirés de femelles d'une espèce de petit calmar côtier qui sont les Dorytetis opalescens. Et ces femelles possèdent des cellules réfléchissantes spécialisées qu'on appelle des leucophores qui peuvent modifier la façon dont elles diffusent la lumière. Du coup, à l'intérieur de ces cellules, il y a des protéines qu'on appelle les réflectines. Alors là, au moins, je trouve au moins le nom est clair.
C'est pas mal.
Autant des fois, on comprend pas trop, mais là, on comprend ce que peut faire une réflectine, réfléchir la lumière. Et l'idée, c'est de pouvoir produire un camouflage un petit peu irisé. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les chercheurs ont cultivé des cellules embryonnaires humaines, et notamment des cellules de rein, et ils ont génétiquement modifié ces cellules pour qu'elles puissent exprimer cette fameuse protéine, la fameuse réflectine. Et les structures qui se sont ensuite naturellement développées se sont comportées d'un point de vue optique presque comme elles le font dans le cas des pieuvres ou des calamars. Donc les chercheurs ont pu vérifier, et pour cela ils ont fait des expériences avec notamment des solutions de chlorure de sodium, que les cellules qui avaient été génétiquement modifiées pouvaient activer ou être désactivées au niveau de l'expression de cette réflectine par un stimulus externe, comme c'est le cas de la pieuvre par exemple. Alors, même si, bien sûr, on est encore très loin du côté transparent et, bien sûr, le côté invisible. Nous ne sommes pas chez Harry Potter. Ce qui est intéressant de montrer, c'est que cette protéine, qui est donc naturellement dans certains céphalopodes, a pu être synthétisée d'une façon génétiquement modifiée, bien sûr, mais a pu être synthétisée dans une cellule humaine. Et ça fonctionne. Et du coup, ça peut aboutir à des développements assez intéressants, parce que on ne pensait pas en fait qu'on aurait pu transposer cette caractéristique dans une cellule humaine. Et l'étude justement montre que c'est possible. Alors après, quels vont être les débouchés de tout cela? On n'en sait rien, si ce n'est des choses avouables ou pas, parce que qui dit camouflage peut avoir des applications peut-être utiles, par exemple dans le domaine militaire. Peut-être. Et du coup, le fait que tu peux synthétiser cette protéine, la réflectine, dans des cellules humaines, des cellules qui du coup ensuite ont pu se développer, on a pu développer un rein dans le cadre de cette expérience, et que du coup ça fonctionne in vitro, évidemment on n'en est qu'au tout début de cette étape, nous ouvre des voies assez intéressantes dans ce domaine-là, qui est un domaine là encore, de ma connaissance, en 10 ans de biotine, on ne l'a jamais évoqué, en fait.
De toute façon, les animaux sont vraiment une source extrêmement inspirante et peuvent apporter beaucoup, bien sûr, aux êtres humains.
Bien sûr. Et parfois, c'est possible de transposer, et dans d'autres cas, non. Et là, on montre que c'est possible pour les cellules humaines. On verra ce que ça donnera. Après, d'un point de vue scientifique, c'est totalement fascinant. Après, l'application qu'on en fait peut des fois un petit peu faire douter de la vertu de la nature humaine. Mais c'est un autre débat, bien évidemment. On ne va pas écouter de musique du tout, parce qu'on a envie de t'écouter, Carole.
Oui, on écoutera la musique après. On écoutera la musique après.
On aura largement le temps d'écouter un peu de musique ensuite, évidemment. Alors, tu vas pouvoir nous parler.
Alors, je
encore d'animaux,
bien
je
sûr,
pense.
Parce que là,
Carole et les animaux.
La thématique est lancée. Et je vais parler de chance. Puisque, alors je ne sais pas si Jean-Noël, toi tu t'amusais à chercher les trèfles à quatre feuilles dans l'herbe quand tu étais enfant.
Mais même récemment encore.
Ah bon, d'accord. Il n'y a pas d'âge.
Non, je t'explique, c'est juste au moment du déconfinement. À un moment, je me suis retrouvé dans un pré et j'étais tellement fasciné de voir du trèfle que je n'avais pas vu depuis des années. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça existe du trèfle à quatre feuilles? J'en ai pas trouvé.
Parce que, alors moi j'ai le souvenir d'en avoir trouvé, mais c'était, on en trouvait comme ça une fois parmi des heures de recherche. Eh bien, alors où je veux en venir,
oui,
eh bien il semblerait quelque part qu'on puisse avoir, les trèfles à quatre feuilles donc sont extrêmement rares, mais qu'on puisse avoir la même chose avec les escargots et leurs coquille, c'est-à-dire au niveau des enroulements. Alors, je vais détailler, hein, qu'on comprenne bien. C'est un article publié dans Science et Avenir, donc début juin, qui s'est interrogé justement sur les escargots et leur coquille qui s'enroule en fait en sens inverse ou dans l'autre sens. Enfin voilà. Et justement, des chercheurs se sont intéressés à ce phénomène, puisque de très rares escargots sont équipés d'une coquille qui tourne à contresens de leur congénère. Donc à quoi est due cette curiosité, hein? C'est ce que se sont demandé les chercheurs, et notamment Angus Davison de l'École des sciences de vie de l'Université de Nottingham et ses collègues. Dans la très sérieuse revue Biology Letters, ils décrivent la recette pour en avoir justement le fin mot, puisque à ce stade, hein, le généticien de l'évolution, qui est donc Angus Davison, ne pouvait poser que deux hypothèses. Soit l'enroulement gauche des escargots est dû à un gène particulier, présent très rarement parmi les gastéropodes. Ce serait alors ce qu'on nomme un gène récessif. Les deux parents doivent être porteurs du gène pour que la progéniture hérite du caractère. Soit, deuxième hypothèse, c'est une mutation au hasard, comme il s'en produit parfois. C'est-à-dire, voilà, la faute n'a pas de chance quelque part, car on est escargot gauche. ou senestres, c'est le mot scientifique, hein, les opposés majoritaires étant nommés les dextres. Donc, et quand on est justement escargot gauche, la vie est un enfer, et visiblement surtout sexuellement. Alors, en effet, pourquoi ?
Alors là, oui, tu nous expliques.
La coquille aux organes internes, eh bien, ça veut dire qu'il est dans le miroir d'un escargot droit classique, ce qui signifie que les organes sexuels également sont asymétriques. Et en fait, ça rend, j'abrège, mais ça rend l'accouplement entre deux escargots à leur roulement opposé très complexe. Et comme, et on va le voir, il y a bien sûr moins d'escargots gauche, eh bien, ils ont beaucoup moins de chances de se reproduire. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un de ces animaux, hein, justement...
Ne marchez pas dessus.
Déjà, ne marchez pas dessus, mais observez justement précautionneusement l'enroulement de la coquille. Il doit se faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Si ce n'est pas le cas, eh bien, félicitations, vous avez trouvé un escargot très rare, gauche, qui est justement un peu ce trèfle à quatre feuilles des gastéropodes. Alors, il y a un taux maintenant estimé justement de ces escargots gauches, puisque pour faire sa démonstration génétique, le chercheur a fait s'accoupler des escargots de même sens spirale gauche. On imagine que ça a été un peu compliqué. Et surtout, il avait un gros problème en fait. Il n'en avait qu'un seul sous la main. Bah oui, il fallait les trouver. Il l'a appelé, c'est pas une blague du coup, il l'a appelé Jérémy. En référence au politicien de gauche anglais Jeremy Corbyn et de son amour du jardin. Voilà, c'est son explication. Apparemment, il le dit dans l'article. Hein, voilà. Donc,
ah, il a appelé son escargot Jérémy.
Oui, bah, il était tout seul, donc il lui a trouvé un prénom, on imagine. Il était, comment dire, il en a pris soin puisqu'il n'avait que celui-là, en espérant, j'imagine, lui trouver d'autres partenaires.
Il faut peut-être combien de temps ça vit un escargot ? Oh, la question piège.
La question piège. Je crois que pas très longtemps. En
bah
plus.
Oui, je pense. Il intéresse des pêchers. Mais il n'y a pas un Tinder pour escargot avec les caractéristiques je suis gaucher.
Non, 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 non. Alors du coup, ce qu'il a fait en octobre 2016, il a fait appel via un passage radio à la BBC aux ressources de la science collaborative et à toutes les bonnes volontés des scientifiques en herbe pour fouiller leur jardin à la recherche de ces escargots très rares. Et au final, plus de 40 d'entre eux furent débusqués, permettant à l'équipe britannique d'entamer un élevage conséquent et justement d'avoir le fruit de ces unions entre escargots gauche. En l'espace de deux générations et après 3 ans de patience, les chercheurs avaient obtenu assez d'eux pour annoncer que le taux d'escargots gauche pouvait être estimé à 1 sur 40 000. C'est pour ça que je dis que voilà, le taux et montre quand même la rareté. Hein. C'est donc un nombre trop faible pour que cette occurrence puisse être attribuée à une transmission mendélienne, on se souvient des lois de Mendel hein, lors de nos études, donc classique, c'est-à-dire via un gène se diffusant d'une génération à l'autre. Donc ça ne pouvait pas être dû à ça. Avoir la coquille qui tourne à gauche, concluent les chercheurs, ne peut donc être que la conséquence d'un accident survenu durant la période développementale. Ils vont encore plus loin, ils pensent que la mutation ponctuelle en cause se trouve probablement au niveau des gènes contrôlant la topologie du cytosquelette de l'animal et donc le sens de rotation de sa coquille. Ils précisent également que s'intéresser à ces enroulements chez l'escargot, ça pourrait être quelque chose de crucial pour mettre à jour les facteurs à l'œuvre dans les asymétries chez d'autres espèces. Comme par exemple chez l'être humain, avec le situs inversus, où certains organes se trouvent en position miroir de leur position normale. Le cœur est à droite, le foie et la vésicule biliaire se trouvent à gauche, et ainsi de suite pour le reste des organes inverses. Internes. On estime que cette anomalie congénitale, elle touche une personne sur 10 000, mais du coup, c'est quand même pas si faible. Donc j'imagine, c'est bien de savoir de quel côté c'est, s'il y a besoin d'intervenir, c'est vrai que c'est mieux. J'ai ouvert du mauvais côté, pardon. Par contre, ça doit poser certains soucis. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'espèces où comme ça, il y a des phénomènes qui peuvent être observés, donc intéressant. Comme quoi, les escargots peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Ah, je vois que ça y est, ça t'a plongé dans une réflexion. Tu te dis,
plusieurs questions.
Alors,
déjà,
je prends
première...
mon téléphone.
Non, la première pour laquelle tu n'auras pas les réponses, fera un jour m'expliquer pourquoi un scientifique se met à étudier des escargots qui ont une coquille qui s'enroule de l'autre sens. Il y a sûrement une raison, je ne la connais pas.
Je dirais que c'est la curiosité scientifique. Il a vu ce phénomène, il a voulu l'expliquer. Peut-être qu'il travaillait déjà sur les gastéropodes.
Et si c'est ça, ok, à la rigueur, on peut le comprendre. Deuxièmement, il y a quelque chose que j'ai... Alors, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Les escargots gauches ne peuvent s'accoupler qu'avec un escargot gauche.
Non. Les escargots, non, ils peuvent apparemment s'accoupler avec un escargot droit, mais c'est très compliqué. Donc, on imagine que ça se produit moins dans la nature, du coup.
D'accord.
Et qu'ils ont, ils se reproduisent moins. Après, eux, ce qu'ils ont fait, c'est surtout qu'en fait, pourquoi est-ce que dans l'étude, ils avaient besoin de faire s'accoupler des escargots gauche ensemble ? C'est que la première hypothèse, c'était que le gène soit récessif. Donc, pour ça, il faut forcément deux escargots gauche.
Ça, je suis d'accord.
Et c'est là où ils se sont rendus compte que c'était pas le cas, justement, et que c'était quelque chose qui se passait durant le développement de l'escargot.
Et dernière question, j'étais en train de me représenter par un dessin un escargot avec une coquille à l'envers, mais ça va être même handicapant. Enfin, je j'arrive pas à bien le symboliser.
Et c'est l'enroulement qui est à l'envers.
C'est l'enroulement qui est à l'envers, mais quelque part, la coquille... Enfin, toi, par rapport à l'escargot en lui-même, il y a quelque chose qui s'emboîte bien quand c'est dans le bon sens. Mais quand c'est dans le sens inverse...
Ben ça, il faudrait chercher. Je n'ai pas regardé de photographie. Je pense qu'il faudrait qu'on regarde aussi sur des vrais escargots. On va se rendre compte qu'en fait, c'est quasiment tout le temps dans le sens de l'aiguille d'une montre.
Je me demande si c'est vraiment viable, en fait.
Apparemment, oui, ils vivent.
C'était ça qui me fascinait, en fait. Parce que j'avais l'impression que ce n'était pas logique. Parce qu'il y avait quelque chose qui était à l'envers. Et donc, du coup...
Bonne question.
C'est pas... Tu parlais de ces humains certains humains qui ont les organes inversés. Mais quelque part, tous les organes sont là et c'est pas gênant que ça soit inversé. Enfin, on reste dans le corps humain, dans sa globalité. Que là, t'as une coquille en plus que tu mets dans l'autre sens. Oui, j'ai des questions parfois métaphysiques, mais ça, c'est toujours les sujets de Carole. Et que je me dis, je sais pas. On va essayer de regarder pendant un petit titre si on trouve des images d'escargots gauche pour voir si... parce que je suppose qu'on doit tout de suite les distinguer. Enfin, on doit voir qu'il y a la coquille qui n'est pas normale, peut-être. On va essayer de voir ça. Je suis désolé, Carole, pour cette dernière émission de cette saison. J'aurais voulu te faire plaisir et de te passer un petit Théo Laurence.
Je n'ai
pas retrouvé. Écoute, ils m'ont
Il a disparu.
Ils m'ont planqué tous les CD. Donc, du coup, on va écouter Siana. C'est... un groupe qui vient de Beauvais, donc un groupe Picardie, donc on reste quand même dans le local, c'est tout aussi bien, rassure-toi, et puis on écoutera Théo Laurence une autre fois.
La prochaine fois, oui, à la rentrée.
Siana sur l'antenne de Graphite, on se retrouve juste après pour continuer à parler de l'actualité scientifique avec Biotine. Ah, si j'appuie pas sur le bon bouton, ça va jamais le faire. Toi, c'est temps que j'aille en vacances, hein, Carole.
La musique ne répond plus, ça, c'est ton côté DJ ou c'est...
Il y a trop de boutons
à appuyer. Assez aléatoire.
C'est ça. Mais là, ça va marcher. Je fais 1, 2, 3.
Check. J'suis back-back, tu black-black. Quand j'rappe, tu fais les back-back. T'as le flow d'un dernier pack-pack. J'me déplace en jack-pack-pack. Beach-beach, c'est un big deal. Dream Chaser, comme Nick Mills. J'répète, c'est un big deal. Sur la prod MC, j'en nique mille. Dédé-dégaine, laissez parler les mains. T'es dit sont pétées, donc laisse rapper les miens. Tu m'entends du rapper, t'as crié amen. Tu connais des rappeurs, vas-y, j't'en prie, ramène. Pas le temps de parler, je prends place dans l'arène. Il fallait du nouveau dans le rap de la mer. Que tu sois là ou non, de toute façon, c'est la même. Je suis venu, j'ai vu et j'ai foutu la merde. Je m'amuse sur le son sans le moindre effort. Rappeur, excuse-moi si c'est causé du tort. Je m'amuse sur le son sans le moindre effort. MC, excuse-moi si c'est causé du tort.
J'ai pas le temps de m'occuper de vos histoires. Parfois je sens que je suis proche de la victoire. Laisse-moi le temps de m'ancrer dans les mémoires. Je suis devant et ça depuis le début. Je vois et ça depuis le début. Je vois et ça depuis le début. Je vois et ça depuis le début.
J'arrive très bientôt, fais gaffe, je préviens pas les MC, poussez-vous et puis poussez les portes. Je ramène du flow, j'ai sorti les AK, allez-y, couchez-vous, j'ai choqué mon époque. Prévenez vos potes, remontez vos frottes, désormais tous ceux qui parlent mal ont les faux. Stop,
stop, stop, stop.
Ils m'ont certifié que c'est vrai qu'on les choque. Chaque jour, je me lève du pied gauche pour être sûr de rapper vénère. RIP à tous ces MC dont la carrière est éphémère. Et ouais, mec, tu l'as pas vivant que en Provence, ça rappe sec. T'es vénère, j'ai plus d'un flow sous ma casquette.
Je m'amuse sur le son sans le moindre effort. Rappeur, excuse-moi si c'est causé du tort. Je m'amuse sur le son sans le moindre effort. MC, excuse-moi si c'est causé du tort.
J'ai pas le temps de m'occuper de vos histoires. Parfois je sens que je suis proche de la victoire. Laisse-moi le temps de m'ancrer dans les mémoires. Je suis devant et ça depuis le début. Je vois et ça depuis le début. Je vois et ça depuis le début. Je vois et ça depuis le début.
MC, excuse-moi si je t'ai
du bon rap, faut juste me demander la recette. Évite de me casser la tête, à mes côtés y'a l'homme 7. Bélec, pousse-toi, j'ai le revers de Nadal. 18 piges, je mets dans le peural et MC m'appelle madame. Normal, il voit que je tique et que je le fais à fond. Attention, je suis le porte-parole de toute une génération. Félicitations, sans prétention, mon flow frise la perfection. Tu dois reconnaître que je suis l'arrêt qui confirme l'exception. Je m'amuse sur le son sans le moindre effort. Rappeur, excuse-moi si c'est causé du tort. Je m'amuse sur le son sans le moindre effort. MC, excuse-moi si c'est causé du tort. J'ai pas le temps de m'occuper de vos histoires. Parfois je sens que je suis proche de la victoire. Laisse-moi le temps de m'ancrer dans les mémoires. Je suis devant et ça depuis le début. Je vois et ça depuis le début. Je vois et ça depuis le début. Je vois et ça depuis le début.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était Kick-Off de Siena sur l'antenne de Graphite. On écoute tous ensemble Biotine, l'émission de l'actualité scientifique qui vient de se focaliser. On a passé tout le titre de Siena à chercher des images d'escargots gauchers. Et du coup, oui, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein, sur,
oui, on voit qu'il y a un problème.
On voit qu'il y a un problème, donc c'est peut-être un peu handicapant, mais bon, finalement...
Bah après, ils vivent. Le problème, c'est qu'ils ne se reproduisent pas. Et donc, on a découvert l'histoire de Jérémy aussi. Aussi parce qu'en fait, quand on cherche ça, on tombe sur Jérémy, qui est l'escargot sénestre le plus connu et qui donc est décédé en 2017. Mais donc voilà, vous pouvez regarder sur internet, c'est assez intéressant. On a toute son histoire. Donc il a réussi à avoir des descendants, mais après pas mal de difficultés. Mais c'est assez intéressant de voir.
Et il est mort à l'âge de 2 ans.
Oui, enfin, ils disent qu'approximativement il devait avoir 2 ans. Oui.
Attends, ça dure quand même longtemps en fait.
Oui. Après, non. Enfin, je me dis 2 ans. S'il a été dans les conditions de laboratoire, on prenait soin de lui. Dans la nature, je pense que
ça
peut, voilà, très très vite diminuer.
Ils sont écrasés ou mangés avant. Ça, c'est ok. Bon, eh bien, on aura parlé de tout dans cette émission Biotine. Et je crois qu'on n'a jamais parlé d'escargots, en fait. Donc,
Il fallait une première.
Mais il fallait une première, et c'était aujourd'hui. Selon les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est la ville de Saint-Clair dans le Wyoming, aux États-Unis, qui détient une palme, laquelle, d'après toi ? Excuse-moi de t'avoir
réveillé.
Je
suis encore là, mais je voulais faire une blague.
Dans l'État du Wyoming, dans les États-Unis, où tu ne trouveras jamais,
bon, si tu n'es
pas au courant de la formation. C'est l'une des villes où on respire l'air le plus propre au monde.
Oh, okay.
Mais des chercheurs de l'Université de l'État du Colorado ont aujourd'hui trouvé mieux une région dans laquelle l'atmosphère ne contient aucune trace d'activité humaine. C'est un peu incroyable, tant les processus climatiques complexes à l'œuvre sur notre Terre relient un petit peu chaque région du monde aux autres. Les chercheurs ont en effet étudié ce qu'on appelle les bioaérosols. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu parler, oui, pendant la période du coronavirus. C'est un petit peu tous ces micro-organismes en suspension, en clair, qui sont donc présents dans la basse atmosphère. Et ils ont étudié ces bioaérosols juste au-dessus de l'océan Austral. Des aérosols qui peuvent être transportés par les vents sur des milliers de kilomètres, et résultat, la grande majorité des bactéries prélevées, elles sont marines, donc émises par les embruns qui viennent de l'ouest, et leur diversité dépend de la latitude et de la température, mais il n'y a pas d'autres variables météorologiques. C'est pur là-bas, il faut qu'on aille tous là-bas avec nos voitures et nos bateaux, sinon ça ne sert à rien. Sur la base de ces observations, les chercheurs estiment dans un communiqué que les aérosols contrôlant les propriétés des nuages au-dessus de l'océan Austral sont fortement lié au processus biologique de l'océan, et que l'Antarctique semble être isolé de la dispersion vers le sud des micro-organismes et des dépôts de nutriments des continents du sud. Donc dans l'ensemble, cela suggère que la couche d'atmosphère juste au-dessus de l'océan Austral est l'un des rares endroits sur Terre qui n'a pas été touché par les activités de l'homme. Ça existe encore, profitons-en.
Exactement.
Ces travaux devront être complétés par d'autres qui vont s'étendre sur des plages de longitude un petit peu plus larges. Mais en tout cas, les travaux concluent d'ores et déjà que enfin, apporte un élément nouveau, pardon, parce qu'avant, on avait un petit peu l'impression que c'était les régions subtropicales ou alors dans l'hémisphère nord qu'on pouvait avoir ces zones-là. Eh bien non, on se rend compte que finalement, il faut aller dans cette dernière parcelle d'atmosphère pure sur Terre. On est du côté donc de l'océan austral. Écoute, c'est encore, comment dire, une bonne nouvelle. On est toujours dans cet aspect d'optimisme
oui,
débordant.
C'est-à-dire que tout dépend de quel côté du verre on regarde.
Le côté. Il faut toujours regarder le verre plein parce qu'on se dit qu'il reste encore un peu d'espoir.
Oui, tout à fait. Ça peut peut-être donner envie que cet air pur le redevienne dans d'autres parties du monde.
Exactement. Alors, avant peut-être de parler des Maya, l'abeille... Non, c'est pas Maya l'abeille que tu m'as
évoqué.
C'est
pas Maya l'abeille, c'est Maya tout court, mais...
On a très peu parlé de ces dernières semaines dans cette émission de l'intelligence artificielle. Et pourtant, oui, c'est quand même un terme qu'on a assez... une technologie qu'on a quand même pas mal...
Détaillée dans l'émission.
Dans cette émission, oui, évidemment. Et... on a donc dans le prochain Top Gun, l'avion de chasse de Tom Cruise sera confronté à des drones. Très bien, ça c'est la fiction. Mmh. Ça me fait penser, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, que j'ai lu que Tom Cruise souhaitait tourner un film dans la Station Spatiale Internationale. Je ne sais pas.
C'est vrai.
C'est vrai. Hein, non, c'est une annonce. D'accord. Vraie. Alors, je ne sais pas entre ce qu'il souhaite et ce qu'il va y avoir, ce qui va se passer, mais il y avait l'idée que ça serait un petit peu le premier film qui se ferait dans l'espace. Je ferme la parenthèse, je n'en sais pas plus, c'est parce qu'il y a ce nom qui apparaît dans cet article de Futura Science. D'ici quelques années, cette fiction du fait de confronter un avion de chasse avec des drones, ça va devenir une réalité et c'est pas certain que ceux qui ont des heures de vol, des milliers d'heures vol d'expérience, fassent le poids face à un pilote un peu virtuel qui va lui plutôt emmagasiner des heures de formation. C'est en juillet 2020 l'année prochaine que l'US Air Force compte organiser un véritable combat aérien tournoyant entre, à ma gauche, un avion de chasse qui va être piloté par un homme et à la droite...
Par Tom Cruise, non.
Par Tom Cruise, s'il n'est pas en vacances, hein, juillet 2021, et de l'autre, un aéronef de combat totalement autonome. C'est la première fois, ça a été annoncé il y a quelques jours, que l'US Air Force, c'est pas n'importe qui, on n'est pas dans une fête foraine, va opposer un avion de chasse qui va être piloté par une intelligence artificielle en clair, avec un avion qui va être, lui, piloté par un humain. Le projet est lancé depuis 2 ans, qui est mené par les chercheurs du laboratoire de recherche de Air Force. Ils vont essayer, plutôt que d'utiliser un véritable drone de combat, l'équipe compte en fait installer dans le siège du pilote d'un F-16 un espèce de système autonome basé sur de l'intelligence artificielle. Alors ils vont le faire travailler, ils vont le faire évoluer d'un point de vue technologique évidemment. Selon Steve Rogers, qui est donc le directeur de ce laboratoire de recherche, le pilote artificiel sera à même de prendre des décisions rapidement en traitant des quantité de données gigantesques en temps réel. Un autre atout qui est, contrairement à l'humain, qui lui va être totalement encore perturbé par je ne sais quoi, eh bien non, là cette intelligence artificielle ne sera pas perturbée par des sensations physiques et émotionnelles dans un ciel qui peut être parfois hostile. Et puis, comme pour n'importe quel combat de drone, eh bien, le fait de débarrasser l'avion du pilote, ça lui permet de se passer de blindage, ça lui permet de se passer de tableau de bord, de siège éjectable, de commande de vol. Bref, au final, l'avion peut gagner énormément de poids. Donc, c'est encore un bien, c'est encore plus intéressant, et en autonomie également. Et il peut aussi se placer dans des limites de vol de l'avion qui seraient insupportables physiquement pour un pilote. Donc on comprend tous les intérêts justement d'avoir un avion piloté de façon artificielle. Selon donc le laboratoire de recherche, ces avions de chasse autonomes devraient remplir des missions équivalentes à celles pilotées par des humains. Pour les chercheurs, ces avions pourraient aussi évoluer en formation guidée par un humain afin d'opérer collectivement. Cette intention fait d'ailleurs l'objet d'un projet qui s'appelle Skyborg. Et les avions de chasse pilotés ne vont pas pour autant disparaître du jour au lendemain. rassurons-nous. C'est un peu comme les voitures. Il y a une dizaine d'années qu'on nous parle des voitures autonomes. Pour l'instant, on a encore...
Elles n'ont pas remplacé la conduite.
Donc évidemment, pour les avions, on est encore loin d'aboutir à ça. Mais je trouve intéressant qu'on nous annonce cette confrontation. Donc notez, ça sera juillet 2021. Dans un an, nous en parlerons. Et vous l'aurez déjà appris en 2020 en écoutant Biotine sur l'antenne de Graphite.
Et oui, alors du coup, je vais revenir en arrière, il y a très 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 longtemps, pour parler donc de la civilisation Maya et d'une découverte très importante d'une structure de 1400 mètres de long qui serait donc la plus ancienne et la plus importante au monde, en structure Maya bien sûr, et qui a été révélée. Donc c'est un article paru dans Science et Avenir en juin et qui nous explique que le plus monumental complexe cérémoniel de toute la civilisation Maya a été repéré pour la première fois dans l'état du Tabasco au Mexique. Il s'agirait de la plus vaste construction préhispanique rencontrée à ce jour en Amérique centrale. Le nom qui a été donné, c'est Aguada Phoenix, et ce complexe serait âgé de 3000 ans. Alors, plus étendu que le complexe pyramidal de la Danta, qui est daté de entre 400 avant Jésus-Christ pardon et 200 après Jésus-Christ, aménagé dans une colline naturelle du site d'El Mirador au Guatemala, il serait également antérieur à Sebal, qui était daté de 950 avant Jésus-Christ et qui était considéré jusqu'alors comme le plus ancien centre cérémoniel maya. Donc Aguada Phoenix battrait tous les records. Ce site, détecté, comme je l'ai dit, au Mexique, au sud-ouest de la péninsule du Yucatan, apparaît désormais comme la plus vaste et plus vieille structure jamais observée pour cette antique civilisation. Et ça, c'est à en croire l'étude qui a été publiée le 3 juin 2020 dans la revue Nature. Presque. J'ai senti que tu étais
sur le coup. Oui, c'était pas instinctivement Nature, j'aurais sorti, Nature. Mais pourquoi pas.
Il y a vraiment tous les sujets. Alors, c'est donc une plateforme artificielle orientée nord-sud de 1400 mètres de long sur 400 mètres de large et une quinzaine de mètres de hauteur, d'où rayonneraient 9 grandes chaussées. Cette découverte, elle était concomitante à celle de 21 autres sites de moindre importance, mais tout ça, ça fait suite en fait à des relevés LIDAR. Donc LIDAR, ça veut dire Light Detection and Ranging, c'est de la télédétection par laser. Et donc cette méthode aéroportée, elle utilise des impulsions laser couplées à un GPS de haute précision pour détecter des structures au sol, y compris celles se trouvant sous la canopée. Oui, parce qu'on imagine qu'il y avait de la végétation qui ne devait pas aider à retrouver ces vestiges. Donc cette technique, elle est révolutionnaire. Elle permet de générer des cartes numériques 3D. Et son utilisation ces dernières années a bouleversé l'étude du monde maya en révélant d'innombrables sites totalement inconnus. On l'imagine dans ces régions. On sait de toute façon que, entre guillemets, ça avait déjà été laborieux de découvrir certains sites. Et c'est ce qui s'est passé pour Takeshi Inomata, archéologue de l'université de Tucson, en Arizona, avec la découverte de cette gigantesque structure jusque-là indétectable au sol. Aguada Phoenix aurait ainsi été érigée donc vers 1000 avant notre ère, période que les mayanistes, spécialistes du monde maya, qualifient de préclassique moyen, c'est-à-dire c'est une période qui va de 1000 ans avant Jésus-Christ à 350 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est en fait avant la période d'apogée de cette civilisation dite classique qui se situe entre 250 et 900. Plus encore que les célèbres sites à pyramides construits en pierre et se dressant à la verticale 500 ans plus tard, donc là c'est là où on se rend compte que la variabilité temporelle est quand même assez importante, la structure en terre et en argile d'Aguada Phoenix constitue une plateforme qui a nécessité une importante mobilisation communautaire pour amasser des millions de mètres cubes de terre et d'argile. C'est ce qu'explique donc Takeshi Inomata. Les spécialistes en horizontalité architecturale, une possible influence Olmec du nom de cette première grande culture qui régna sur le golfe du Mexique du 13e au 4e siècle avant notre ère. Des plateformes similaires ont en effet été exhumées par le passé sur le site de São Lourenço, dans l'état voisin du Veracruz, à 400 km à l'ouest. Et ça, ce site, on le date à peu près à 1400 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1150 ans avant Jésus-Christ. Donc, encore une fois, quand on se repère un petit peu et qu'on essaye de comprendre ces dates-là, on se rend compte que déjà, c'est une civilisation qui est quand même sur une fourchette assez étendue et que surtout là, alors que je pense qu'on pensait avoir quand même pas mal d'informations, on fait un retour en arrière et on découvre des éléments encore plus anciens. Donc Aguada Phoenix aurait ainsi pu émerger après le déclin de cette première capitale Olmec, avant l'apparition de son autre grand centre situé à La Venta. Une analyse que ne partage pas l'archéologue américaine Anne Cyphers de l'Institut de recherche anthropologique de l'Université nationale autonome de Mexico, qui est une référence justement en matière de société Olmec. Et ce qu'elle nous affirme, c'est que d'un point de vue architectural, les deux sites d'Aguada Phoenix et San Lorenzo lui sont... À l'heure actuelle, Aguada Phoenix me paraît posséder plus d'affinités avec des sites des basses terres mayas ou du centre du Chiapas plutôt qu'avec le San Lorenzo Olmec. Donc voilà, on imagine qu'il y a des discussions évidemment entre spécialistes pour essayer de comprendre quel serait le lien, quel serait, voilà, essayer de retracer ça dans toute l'histoire de la civilisation maya. Pour l'heure, les fouilles archéologiques n'ont livré aucune grande sculpture, contrairement à celle colossale qui avait été extraite de San Lorenzo. Seule une petite statuette représentant vraisemblablement un cochon a été retrouvée, ainsi qu'une série de poteries et de haches en jadéite et en obsidienne, une roche volcanique très prisée des Mayas. Les chercheurs de l'Université d'Arizona du coup s'interrogent, ce site cérémoniel était-il destiné à des rituels de masse ? Des foules auraient-elles pu s'y rassembler lors d'immenses processions ? Peut-être lors d'événements calendaires, en tout cas des spéculations qui peuvent être étayées par la présence au centre de la plateforme d'un bâtiment connu dans l'univers maya sous le nom énigmatique de Groupe E. Ah oui, on dirait qu'on est dans un univers un peu de secte. Alors voilà, apparemment c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'univers maya. C'est un type de structure unique qui est vraiment propre à cette civilisation, liée au calendrier solaire et à des préoccupations cérémonielles. Quoi qu'il en soit, la gigantesque plateforme semble avoir fonctionné à peine 200 ans avant d'être abandonnée en même temps que plusieurs sites voisins, donc vers 800-750 avant Jésus-Christ. Donc c'est assez fascinant parce que c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été long à construire, visiblement qui n'a pas été occupé si longtemps. Et moi, j'avais aussi vu en fait des recherches là sur le monde maya assez récentes qui montraient qu'en fait, le fait de découvrir comme ça ce type de site, visiblement en lien avec des cérémonies, des choses de cet ordre-là, montrer aussi que la sédentarité et la chronologie qu'on croyait être celle de la sédentarité chez l'espèce humaine était plus complexe que ce qu'on pensait, puisque finalement, elle serait peut-être plus ancienne. Parce qu'en fait, ça montrait déjà des pratiques un peu plus sédentaires avec des espèces de villes qui entoureraient ce grand centre religieux, enfin cérémoniel. Donc c'est assez intéressant et je pense que justement en continuant à étudier cette civilisation, on n'est pas au bout de grandes surprises et de grandes découvertes.
Ça c'est totalement évident. Alors je vais être honnête avec toi, je ne connais absolument pas la civilisation maya, je n'ai aucune connaissance sur ce domaine-là, donc je ne vais pas m'aventurer à faire un commentaire. Seulement que oui, effectivement c'est fascinant et c'est intéressant d'apprendre ces choses-là. La civilisation maya, elle est découverte, en fait on en parle très ponctuellement dans cette émission. Pop, des fois, une petite info qui... C'est-à-dire qu'on en est encore très, très loin de tout comprendre et de tout connaître.
Oui,
c'est tout l'intérêt.
Et surtout, avec ces sites cachés, avec toute cette mythologie autour. Alors, ce qu'on sait, en tout cas, c'est que c'était une civilisation qui était prospère et surtout assez incroyable en termes d'invention et de tout ce qu'ils avaient déjà mis en place au niveau de l'agriculture, mais même au niveau de plein de choses, du fonctionnement de leur société. C'est ça qui est fascinant. À une époque extrêmement lointaine et, comme on pourrait dire, qu'on imaginait finalement peu développée. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des retours en arrière après, en termes d'évolution des civilisations humaines.
Ils ont posé des fondamentaux qui, à mon avis, mériteraient d'être encore, utilisés aujourd'hui. Donc,
la relation avec la nature, avec beaucoup de choses, tout à fait.
Il y a beaucoup de choses qui vont revenir peut-être à la mode, entre guillemets, c'est un très vilain mot, mais je trouve qu'on a énormément de choses à apprendre de leur part, ça que je veux dire. Et le problème, c'est qu'il est là, c'est qu'on ne sait pas tout encore. Donc, c'est aussi l'intérêt de la science, c'est de pouvoir découvrir, c'est de la base primordiale, justement, de l'activité de recherche scientifique. Et donc là, on découvre des choses. C'est ça qui est intéressant, c'est fascinant.
Et de toute façon, pour tout ce qui est comme ça, alors je généralise un peu, toutes ces découvertes très anciennes, et je pense aussi à beaucoup de reportages que j'ai vus pendant le confinement, sur aussi des découvertes d'ossements, des reconstitutions, même pour tout ce qui est homme préhistorique, enfin les différents membres de la lignée humaine. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des grandes discussions en fait, entre experts pour essayer de comprendre et souvent, il y a des remises en question et en fait, on découvre que non, il y avait eu telle ou telle apparition, qu'en fait, les endroits où on pensait que c'était développé telle ou telle partie de la lignée, ben non, il y avait des choses nouvelles qu'ils avaient colonisées de manière différente. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et au niveau, justement, parce que tu parlais d'Hatshepsut tout à l'heure, de la civilisation égyptienne, il y a toujours des découvertes. Alors, on découvre beaucoup de choses par l'exploration des tombeaux. Et bien, il y a toujours des choses à découvrir. Notamment, j'avais vu un reportage fascinant sur le tombeau de Toutankhamon, puisque c'est là où on a retrouvé énormément de choses, puisque la plupart des tombeaux avaient été pillés. Enfin, il y a eu beaucoup de pillages, d'endroits qui ont été abîmés. C'est pour ça hein, que ceux qui ont été préservés sont assez rares, et notamment il y a celui de Toutankhamon. Et bien, ils sont encore en train de se demander en fait si derrière un mur il n'y aurait pas une autre partie, et justement ils essayent de reconstituer avec donc d'autres pharaons connus la lignée. Et en fait, il y a toujours des débats entre les différents experts. Et alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, ils sont en train de se demander s'ils vont percer le mur, parce que forcément, on prend bien ses précautions avant de le faire, pour voir si on va découvrir derrière la salle où donc il y avait sa momie, hein, s'il y a autre chose derrière. Donc ils font pareil des sondages, ils explorent, ils analysent les peintures, parce qu'en fait, les Égyptiens masquaient ces entrées secrètes avec donc de la peinture et des représentations pour pas qu'on devine
qu'il y avait une porte.
Voilà. Donc c'est assez fascinant.
C'est fascinant. Et ce qui est fascinant, là encore, c'est qu'on en est encore très, très loin d'avoir tout découvert. C'est ça qui est intéressant aussi. On a tellement de choses à découvrir. Donc, on se dit qu'on a encore pour plusieurs années d'émission et on terminera, je pense, comme des vieux croutons en train de dire « C'est formidable ce qui se passe avec la science
!» Avec plaisir.
En tout cas, merci. Oui. Ça fait plaisir de parler un petit peu de la civilisation maya dans cette émission. Il faut dire que dans cette émission, comme on parle de science avec un grand S, on parle de tout. C'est ça qu'on parle de tous les domaines. Pour terminer cette saison, Carole, écoute, je te propose une petite sucette. Une sucette électronique, bien évidemment. Ah, je vois que... Non, sucette électronique, Carole.
D'accord.
Attention.
Non, je ne sais pas ce que tu imaginais.
Je ne vois pas à quoi tu pensais,
Carole. Je ne vois pas.
Parce que il y a des moments, on est comme ça en fait. Il y a des moments où on a envie de manger un carré de chocolat, et puis il y a un autre moment où on a plutôt envie de manger, tu vois, un petit peu de charcuterie, un peu de saucisson. Ça dépend. Il y a des moments.
Oui, mais c'est vrai que
je t'ai croisé le week-end dernier. Tu étais en train de baver devant un hamburger dégoulinant.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Et bien, il y avait voilà, il y a un moment, t'as envie de manger
mais après,
aussi.
J'imagine une sucette au hamburger.
Qui t'a parlé de sucette au hamburger?
Je sais pas. Tu vas nous raconter ça.
Je vais te faire le lien parce que maintenant tu ne vas pouvoir exaucer tous tes envies, tous tes rêves grâce à ce synthétiseur de goût. Ce chercheur japonais qui s'appelle Omei Miyashita, pardon.
Ce fut laborieux.
Oui, c'est parce qu'en fait, j'avais l'impression, c'est le I et le Y qui m'ont perturbé, mais en fait, non, c'est facile. Omei Miyashita, oui. En général, je me débrouille pas mal sur les noms, donc ça devrait le faire. Omei Miyashita, il travaille à l'université de Tokyo. Il a inventé, alors il le dit lui-même, un gadget électronique qui permet de recréer artificiellement n'importe quelle saveur avec zéro calorie. Génial, zéro calorie. Il suffit de, nous dit-il, en tout cas dans ce communiqué de presse qui évidemment a été relayé par différents articles, il suffit de lécher langoureusement l'appareil pour avoir la sensation de steak grillé ou de glace à la fraise. C'est ça qui est tout l'intérêt. Pour sa sucette électronique, car il s'agit, tu l'as compris, d'une sucette électronique qui est baptisée synthétiseur Norimaki, eh bien, Omei Miyashita s'est inspiré des écrans numériques où des pixels RGB, les trois couleurs rouge, vert, bleu, sont juxtaposés pour donner une image globale d'une certaine couleur. Et le synthétiseur combine les cinq différents goûts, je les rappelle, acide, salé, amer, sucré et umami, ne me demande pas ce que c'est, en quantité plus ou moins grande pour essayer de créer une saveur unique. Et la sucette, elle est donc remplie avec des tubes de gel coloré. C'est du gel de l'agar-agar qui sont une espèce d'algue. Et en fait, c'est un petit peu, et on peut le voir sur Internet, vous pouvez trouver des vidéos de ce synthétiseur. On dirait une espèce de gros stylo à quatre couleurs, en fait, quelque part. C'est un peu le principe, il est un peu comme ça. Et dans chaque tube de gel, justement, est additionné une substance pour donner un des cinq goûts. Et les substances, elles sont assez originales. Tu as la glycine pour avoir le côté sucré. Tu as le chlorure de magnésium pour le goût amer. Tu as l'acide citrique pour l'acide. Donc là, on comprend et on connaît un peu mieux. Tu as le chlorure de sodium, NaCl, pour le salé. Et le glutamate de sodium pour le goût umami. Alors, je pense que le goût umami, ce côté un petit peu japonais, asiatique, un peu de glutamate, en fait, quelque part, un petit peu ce côté-là. Et l'appareil est enveloppé dans une feuille de cuivre, de telle sorte que quand on le tient dans la main et qu'on le presse sur la langue, eh bien, il se forme un courant électrique qui traverse le corps. Alors, attention, c'est une faible tension, on n'est pas là pour s'électrocuter. Et il y a donc un processus qu'on appelle une électrophorèse. Ceux qui ont fait de la science connaissent ce processus qui permet de trier les molécules d'un gel en fonction de leur taille. Et donc, selon le réglage de l'appareil, eh bien, le courant électrique va empêcher certaines saveurs de remonter dans le tube de ce gel. Et donc, du coup, on va pouvoir varier les saveurs. Certaines vont remonter à la surface, entre guillemets, d'autres non. Et donc, en combinant ces cinq saveurs, tu vas pouvoir avoir une différente impression de pouvoir avoir différentes saveurs assez complexes. Selon donc le chercheur, le synthétiseur a permis aux utilisateurs d'expérimenter une grande panoplie de saveurs allant des bonbons gélifiés jusqu'au sushi sans avoir à mettre un seul aliment dans leur bouche. C'est quand même assez fascinant. Alors, on est bien d'accord, nous sommes dans un gadget, il le dit lui-même, donc il y a une espèce de fonction récréative. Mais ça pourrait être intéressant dans la gestion du poids. Je vous ai dit zéro calorie. Et ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de reproduire le goût du sel sans être obligé d'avoir effectivement du sel dans l'alimentation. Le chercheur s'est d'ailleurs directement inspiré de précédents travaux d'un autre chercheur japonais, Hiromi Nakamura, qui avait développé en 2018, une fourchette électronique qui mimait le goût salé. On en avait parlé dans cette émission de cette fourchette électronique qui, avec une combinaison un petit peu particulière d'un point de vue électrochimique, permettait d'avoir le sentiment d'avoir du sel dans la bouche. Sauf que tu n'en avais pas. Et donc, quand tu mangeais quelque chose qui ne contenait pas de sel, tu avais quand même une saveur salée. Et du coup, d'un point de vue médical, c'est une vraie avancée. Parce que tu as une satisfaction personnelle de te dire « je ne mange pas quelque chose qui bouillit à l'eau et qui est insipide », mais tu n'as pas justement cette quantité de sel qui est ingérée. Le concept devrait aussi intéresser les producteurs de films, bien sûr, parce que ça peut être intéressant d'avoir vraiment une expérience de cinéma augmentée. C'est-à-dire que tu as déjà les sensations
avec
physiques,
les effets,
les odeurs, et il te manque le goût. Et bien du coup, maintenant, tu pourras avoir les cinq sens dans ton film. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, il y avait un film qui existait, qui a été présenté en 2017, qui permettait aux spectateurs de s'immerger dans une forêt de séquoia en s'équipant d'un casque de réalité virtuelle. Ça diffusait des odeurs, il y avait un gilet pour ressentir les vibrations, il y avait une veste pour d'autres sensations physiques un petit peu plus violentes, parce que tu pouvais ressentir une flèche, une balle, la pluie, et ainsi de suite. Eh bien, on peut imaginer, par exemple, dans le film dessin animé Ratatouille, ce film est fascinant parce que...
il donne envie de manger.
Il donne envie de manger, et ben tu pourrais peut-être avec cette sucette avoir vraiment la sensation de véritablement de ce qui a été fait, et puis tu pourrais aussi peut-être déguster une vodka martini au checker pas à la cuillère de James Bond, sauf que tu ne bois pas. En fait, il y a un gadget et derrière il peut y avoir des applications médicales qui peuvent être intéressantes.
Tout à
On reste dans un gadget qui fait que le goût, finalement, ça n'est pas que le goût, c'est-à-dire qu'il y a aussi une sensation. Il y a aussi l'odorat qui entre en jeu quand on goûte quelque chose. Il y a aussi la température des aliments. Il y a aussi le phénomène, la texture également, qui a un impact particulier aussi sur le goût. Donc, on se dit que ça ne peut pas être aussi élaboré qu'on le pense. Mais en tout cas, ça peut avoir des applications assez intéressantes. Je voulais terminer cette année, Carole, avec cette sucette électronique.
Ben, c'est très bien. Très intéressant. je ne sais pas quoi ajouter. Ton cadeau pour Noël, alors, c'est ça, non le...
Oh, pourquoi attendre Noël ? C'est quand même assez cruel, nous sommes fin juin, c'est un peu dommage, mais voilà. Non, mais ça résume un peu ce genre d'article, ça résume un petit peu ce qu'on essaye de faire dans cette émission, c'est-à-dire, on parle de science, il faut aussi ne pas nécessairement se prendre au sérieux, mais toujours se dire que derrière chaque découverte ou autre, on soupçonne difficilement parfois les avancées qu'il peut y avoir, autant parfois c'est totalement évident, autant il y a des choses qui le sont moins, et c'est un petit peu notre rôle ici dans cette émission de pouvoir vous transmettre voilà, un minimum d'informations. À vous ensuite de vous forger votre propre culture scientifique. On a bien vu cette année, Carole, avec cette période assez inédite de ce coronavirus, le manque de culture scientifique d'une société occidentale qui, pour certaines, était sceptique par rapport à d'autres informations, pour d'autres qui étaient totalement, je dirais, captivées et, par les mêmes informations et que finalement, il manquait un petit peu de rigueur dans tout ça. Et parce qu'il manquait un petit peu de connaissances scientifiques de base. C'est pas une critique que je fais de la société, je fais un constat. Cette émission, modestement, mais très modestement, essaye de transmettre un minimum d'informations scientifiques. À chacun ensuite de s'approprier ça et de se forger son propre avis. Vous êtes amis auditeurs, des citoyens, vous avez votre avis à donner sur la science qui se fait. Est-ce que l'espace, c'est bien d'y aller ou pas ? Après tout, chacun a son avis et son avis propre est totalement légitime. Est-ce que des sujets un petit peu plus polémiques sur les OGM, sur l'énergie, le nucléaire, sur le développement durable, la biodiversité, toutes ces choses-là qui font beaucoup parlé. Chacun a le droit de donner son avis, évidemment, c'est pas le problème. Je considère personnellement que un avis doit être renforcé par une connaissance de base pour pouvoir ensuite avoir quelque chose d'utile dans le débat et pas uniquement de relayer des croyances ou des fausses croyances qui malheureusement parasitent le débat. Le débat doit avoir lieu, mais il doit avoir lieu sur des bases saines et utiles. C'est mon message de cette fin de saison et modestement, c'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission, Carole.
Oui, tout à fait, et avec beaucoup de plaisir puisque je trouve qu'à chaque fois, c'est assez fantastique ce qu'on peut découvrir, toutes ces recherches, toutes ces questions que se posent les scientifiques. Et sur notre monde, en fait, c'est la compréhension du monde qui nous entoure, tout simplement.
Ne jamais oublier que ce qu'on évoque dans cette émission va concerner notre quotidien dans un futur très proche. Je rappelle que dans les années, il y a une dizaine d'années, tout ce qui était voiture qui était autonome, qui est maintenant quelque chose qui se développe. Alors, c'est pas démocratisé, mais ça existe.
Oui, tout à fait.
Il y a 10 ans, on parlait que de ça. On parlait du début de l'imprimante 3D, c'était totalement fascinant. On parlait de l'intelligence artificielle. On voit aujourd'hui qu'on en parle encore avec les avions de chasse. Donc, c'est la science qui va avoir un impact dans notre vie quotidienne. Donc, autant être au courant de ce qui est en train de se préparer, de ce qui va venir, au lieu de subir malheureusement, sans avoir le temps de s'y préparer. C'est ça qui nous intéresse, je pense, Carole, c'est de voir ce monde qui se construit et du coup, on se dit, on peut peut-être des fois avoir une influence sur telle ou telle chose. Il y a des choses qui nous dépassent totalement et je pense que tout au long de l'année, on n'a pas arrêté de dire ce que l'on pensait de la situation catastrophique en termes de biodiversité, de développement durable, d'énergie, d'écologie au sens large, mais en mobilisant et de plus en plus et surtout en éduquant, je parle bien d'éducation dans ce cas-là, peut-être que la mobilisation sera plus efficace. À mon sens,
espérons-le,
souhaitons-le. Et en tout cas, on continuera, on l'espère, à partir de la rentrée de septembre, au micro de Graphite, pour continuer ce combat. Rejoignez-nous, vite.
Oui, et avant, profitez bien des vacances de l'été, hein, bah écoutez, du mieux
profitez,
que vous pouvez.
Profitez des vacances de l'été, parce que voilà, il n'y a pas d'émission biotine en juillet et en août. De toute façon, le studio ferme en août, je crois, donc de toute façon, ce n'était pas possible. Puis en juillet, voilà, je fais mon gros feignant et je m'arrête, 2 mois, ce qui vous permet de souffler, amis auditeurs. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien. Les réseaux sociaux nous permettent un petit peu aussi de relayer ce que l'on fait. Donc, merci à vous tous. Merci à la direction de Graphite qui nous permet de réaliser cette émission en totale liberté et autonomie. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est une grande chance finalement, parce que quelque part on parle de ce que l'on veut sans avoir derrière quelqu'un qui va contrôler un petit peu ce que l'on prévoit de dire à l'avance.
Oui.
Et c'est un énorme luxe.
C'est
un énorme luxe. Donc autant en profiter. Donc merci à la direction de Graphite et de sa confiance. Confiance qui devrait être renouvelée. Donc on se retrouvera à la rentrée de septembre. Vous suivez l'actualité de Graphite et notamment de cette émission Biotine sur les réseaux sociaux, notamment sur le site internet graphite.net et aussi sur la page Facebook et Instagram, entre autres, et 94.9 sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent. De toute façon, Graphite continue à émettre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y aura toujours Graphite pour vous accompagner pendant tout cet été. Je vous remercie, je vous embrasse tous, je t'embrasse, Carole.
On est loin derrière. J'embrasse tous les auditeurs. On est très loin, oui, donc. Mais avec les gestes barrières, bien sûr.
Nous nous embrassons avec les gestes barrières.
Exactement.
Nous allons nous checker du coude tout à l'heure.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Merci à tous, je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve en septembre. Bonnes vacances, à bientôt.
Bonnes vacances, au revoir.